Actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, eh bien, nous lancerons le débat sur la traque des groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Car après un an de brouille, eh bien, l'armée congolaise et les casques bleus de la MONUSCO ont décidé de reprendre leur coopération militaire. L'occasion de parler ensemble justement ce matin de l'efficacité de cette collaboration, d'autant que le gouvernement congolais insiste sur le fait que son interruption n'a pas empêché l'armée congolaise de poursuivre ses opérations contre les rebelles. D'ailleurs, depuis longtemps, les autorités plaident pour une réduction de cette force de maintien de la paix. Alors, que vous inspirent les relations tendues entre l'armée congolaise et la MONUSCO? Quel bilan dressez-vous d'ailleurs de l'action des casques bleus, des 18 000 casques bleus déployés depuis maintenant 20 ans en République démocratique du Congo? Vous nous rejoignez, vos réactions, vos analyses et vos témoignages, vous qui êtes sur le terrain, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Des questions concernant le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il s'est ouvert la semaine dernière devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Bonjour Anani.
Bonjour monsieur.
Vous nous appelez de Lomé au Togo, nous vous écoutons.
Oui, j'aimerais savoir comment les autorités ivoiriennes et la CPI expliquent le fait qu'aucun membre du gouvernement Ouattara ne soit poursuivi.
Alors, c'est vrai que 5 ans après les faits, 5 ans après les violences de la crise post-électorale qui ont fait 3000 morts, aucun membre du camp Ouattara n'a été poursuivi en Côte d'Ivoire, ni inquiété par la Cour pénale internationale. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous suivez le procès Laurent Gbagbo. Vous étiez d'ailleurs sur place à la CPI à l'ouverture de ce procès. Des crimes ont été commis par des partisans d'Alassane Ouattara, des exactions qui, dès le départ d'ailleurs, ont été documentées par l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch. Quelle est la position de la CPI?
Alors, il faut remonter à 2011 pour comprendre. En fait, à ce moment-là, la CPI fait le choix dans ses enquêtes de séparer les deux camps pour des raisons d'efficacité, c'est ce qu'elle dit à l'époque. Car lorsque la CPI est saisie du cas ivoirien par le nouveau président Alassane Ouattara, il est assez facile à ce moment-là de recueillir des preuves contre les partisans de Laurent Gbagbo, peu de temps après sa chute, et on s'en doute, les autorités ivoiriennes coopèrent. Du coup, pour ne pas risquer de retarder tout le processus, la procureure décide de lancer les premiers mandats d'arrêt au plus vite contre les partisans du camp Gbagbo, et ce, sans attendre les résultats de l'autre volet de l'enquête dont elle pressent qu'il pourrait prendre davantage de temps, compte tenu évidemment du contexte politique et de ses moyens aussi humains et financiers qui sont limités. Le problème, eh bien, aux yeux des défenseurs des droits de l'homme, c'est que 5 ans après, on en est toujours là, avec d'un côté un procès très médiatique qui met en lumière le rôle joué par les partisans de Laurent Gbagbo, et de l'autre une enquête sur les partisans d'Alassane Ouattara qui se poursuit, mais dont on ne sait rien parce que la CPI ne peut pas la révéler le dessous de cette enquête, sous peine de violer le secret de l'instruction.
Donc la CPI enquête bien sur les crimes commis par les partisans d'Alassane Ouattara.
Oui, c'est ce qu'elle a toujours affirmé d'ailleurs, qu'elle enquêtait dans les deux camps, et que bon, certes après des débuts un peu lents, pour les raisons que je viens d'expliquer, elle avait même l'an dernier renforcé ses moyens sur les enquêtes contre les partisans de Ouattara. Simplement, je vous le disais, tant que l'enquête n'est pas finie, elle dit qu'elle ne peut pas communiquer.
Alors, 5 ans, c'est long, c'est trop long, disent certaines organisations de défense des droits de l'homme. Sait-on si les autorités ivoiriennes coopèrent avec les enquêteurs de la Cour pénale internationale?
Officiellement, à la CPI, on affirme que oui. Mais certains observateurs se posent la question, d'abord parce qu'on a vu dans d'autres affaires à quel point pour la CPI c'était difficile de poursuivre des chefs d'État ou des proches de chefs d'État en exercice. On peut citer le Kenya ou le Soudan d'Omar el-Béchir. Et ensuite parce qu'il y a un an, Alassane Ouattara a affirmé que désormais il ne livrerait plus personne à la CPI, expliquant que le système judiciaire ivoirien était maintenant suffisamment solide pour solder en quelque sorte les comptes de la crise post-électorale. électorale, ce qui n'était pas le cas en 2011 au moment de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Voilà qui fait dire à certains qu'en séparant les deux camps de la crise et en acceptant de commencer par les vaincus, eh bien la CPI est peut-être dans cette affaire tombée dans un piège.
À suivre donc. Anani, on a répondu à votre question ?
Oui, un petit peu.
Un petit peu, bah je pense qu'on voilà, c'est tout ce qu'on peut vous donner comme information à cette heure-ci. L'enquête se poursuit et en temps et en heure, eh bien la procureure Fatou Bensouda donnera et livrera ces informations. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir appelés. Bonne journée à Lomé au Togo. Autre question, Henriette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris.
Oui, mais je passe la plupart de ma vie au Kenya et ma question a un lien avec le procès Gbagbo, à savoir que au début des procès internationaux, il y a toujours beaucoup de battage, de médiatisation, et puis les choses, comme pour le procès de Uhuru Kenyatta et de son associé, le Premier ministre Ruto, les choses disparaissent, on n'entend plus parler de rien, les témoins s'évanouissent, et d'un seul coup, tout part en quenouille. C'est-à-dire, est-ce qu'il risque d'arriver pour le procès Gbagbo, ce qui est arrivé pour le procès Uhuru Kenyatta, c'est-à-dire d'un seul coup, tout le monde on ne parle de plus rien du tout, et M. Kenyatta continue sa petite vie tranquille. Est-ce que ça risque d'arriver.
Uhuru Kenyatta, le président kényan, qui était effectivement dans le collimateur de la Cour pénale internationale, il était poursuivi pour des crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales. C'était fin 2007, début 2008, 1200 morts, 600 000 déplacés. Alors si Henriette n'entend plus parler de cette affaire, Florence Maurice, c'est que le procès n'a toujours pas débuté et il n'est pas prêt de débuter.
Eh oui, il était programmé au départ en novembre 2013, hein, il y a plus de deux ans. Mais dans un premier temps, il a été plusieurs fois repoussé à la demande de la procureure de la CPI parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves pour aller au procès et demandait du temps supplémentaire pour continuer l'enquête. Mais finalement, en décembre 2014, hein, pressé par les juges qui venaient de lui refuser un énième report, la procureure de la CPI a finalement retiré ses charges contre le président kényan, préférant en rester là plutôt peut-être que de s'enliser dans un procès qu'elle savait perdu d'avance.
Oui, puisque les poursuites ont été abandonnées, faute de preuves solides. Comment expliquer que le dossier de la procureure se soit ainsi, on va dire, dégonflé en cours de route ?
Et parce qu'en fait, au fil de la procédure, hein, et en particulier depuis l'élection d'Uhuru Kenyatta à la tête du Kenya au printemps 2013, plusieurs témoins clés se sont désistés. L'un d'eux a même déclaré à la presse kenyane qu'il avait livré un faux témoignage sur un événement jugé crucial pour l'accusation. Donc ça affaiblit évidemment la thèse du procureur qui a alors dénoncé des pressions, une campagne d'intimidation sans précédent contre ses témoins, des témoins qu'elle expliquait trop terrifiés pour venir témoigner, mettant notamment en cause les réseaux sociaux qui auraient cherché, selon elle, à dévoiler l'identité de certains témoins protégés. Autre élément de réponse, Juan, le manque de coopération des autorités kenyanes. Fatou Bensouda accuse Nairobi d'avoir refusé de lui transmettre des documents importants comme des factures ou des relevés téléphoniques, ce qui aurait, selon elle, entravé son enquête.
Et dans ce contexte, est-ce que la procédure a des chances d'être rouverte un jour ?
Alors, courte victoire de la procureure dans ce dossier. Les juges n'ont pas blanchi le président kényan. Ils ont seulement prononcé un non-lieu, ce qui, en théorie, permet à la procureure de relancer une nouvelle affaire si jamais elle obtenait de nouveaux éléments de preuve ou bien si finalement le Kenya se mettait à coopérer. Peut-être dans quelques années, sous-entendu peut-être quand Kenyatta ne sera plus le président du Kenya.
Ça signifie quoi, Florence Maurice ? Est-ce que la CPI, à ce jour, ne dispose d'aucun recours ? Elle n'a plus aucun moyen de pression sur le Kenya ?
Pas vraiment. Alors, pour ce qui concerne les témoins qui se sont rétractés, la CPI a décidé de poursuivre ceux qui auraient tenté de les influencer. Trois Kenyans sont sur le coup de mandat d'arrêt, mais le problème, c'est que le Kenya ne les a pas livrés à la cour. En septembre dernier, deux d'entre eux ont même été brièvement arrêté puis relâché sans que le Kenya ne donne aucune explication à la CPI. Ce que peut faire la CPI, c'est demander aux pays membres de condamner formellement le Kenya pour son manque de coopération. Mais la décision appartient aux juges, pas aux procureurs. Et jusqu'à présent, ils ont refusé de le faire. Et puis, même s'il y avait une condamnation publique du Kenya devant l'Assemblée des États-parties, eh bien, ça resterait une sanction tout à fait symbolique.
Et la CPI, on rappelle, ne peut pas forcer un État à coopérer. Henriette, on a répondu à votre question ?
Oui, je pense que les élections présidentielles vont venir, que M. Kenyatta et ses acolytes, je dis bien ses acolytes, ne voudront sûrement pas lâcher le pouvoir. Donc je pense qu'on va peut-être assister à de nouveaux événements et ça sera peut-être une occasion justement de régler le compte à ces individus.
Voilà. En tout cas, Florence Maurice, au-delà de l'aspect purement judiciaire, on peut dire qu'entre le Kenya et la Cour pénale internationale, c'est un véritable bras de fer qui se joue. Et on l'a vu d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière au sommet de l'Union africaine.
Oui, et Henriette semble l'avoir bien compris. Hein. Le Kenya a pris en fait la tête d'une véritable fronde anti-CPI. Une fronde qui couvait depuis des années sur le continent africain, mais qui a pris justement de l'ampleur au moment de l'inculpation d'Uhuru Kenyatta et qui s'est soldée donc le week-end dernier par cette résolution adoptée à l'UA, résolution pour un retrait pur et simple de l'Afrique, de la Cour pénale internationale.
Et nous en parlions d'ailleurs hier, vous avez été plus d'un millier à nous contacter pour réagir et commenter donc cette décision, ce bras de fer entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. On aura l'occasion évidemment, si vous le souhaitez demain dans la libre antenne, de prolonger ce débat. Florence Maurice, merci d'être venue. Merci à Henriette qui nous appelait donc de Paris. Henriette qui nous écoute donc, si j'ai bien compris, habituellement au Kenya. Et d'ailleurs, pour tout savoir sur la Cour pénale internationale, n'hésitez pas à consulter l'enquête exclusive réalisée par la rédaction d'RFI. C'est un web documentaire à découvrir sur notre site RFI.fr. La CPI, ses dossiers, son pouvoir et ses limites. 9h21 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction. Des questions concernant la crise burundaise. Dikiri, bonjour.
Bonjour,
vous nous appelez. Merci de les saluer également, qui vous écoutent très nombreux, Dikiri. Vous êtes à Capskiring, en Casamance, au Sénégal. Quelles sont vos questions?
Oui. J'aimerais avoir des informations sur le mouvement de Burundi. Et j'aimerais en connaître les différents mouvements qui combattent le président Nkurunziza. Et de quel armement disposent-ils les rebelles?
Alors c'est vrai que la situation s'est compliquée avec l'apparition de plusieurs groupes rebelles dont l'objectif est clairement de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Bonjour Ezra Zinkoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI dans la région. Alors effectivement, plusieurs mouvements rebelles ont fait leur apparition. Est-ce que vous pouvez un peu nous les présenter?
Eh bien, Juan, c'est difficile de répondre très clairement à cette question, mais on va essayer de voir un peu plus clair dans cette jungle. Un petit rappel des faits d'abord pour comprendre, c'est que l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza, c'était en avril, fin avril 2015, a précipité le Burundi dans une grave crise. Il y a eu des manifestations réprimées dans le sang, il y a eu une tentative de coup d'État, c'était le 13 et 14 mai 2015. Tout ça a eu pour conséquence, eh bien, la création de ces nouvelles rébellions. La première, c'est celle qui est constituée de militaires et policiers qui ont déserté de l'armée et qui ont annoncé la renaissance de ce qu'on appelait les forces républicaines du Burundi, les Moribous. C'était vers la fin décembre. C'est une rébellion dirigée par le général Godefroy Niyombare. C'est un ancien compagnon de route de Pierre Nkurunziza, ancien chef d'état-major de l'armée et jusqu'à récemment patron du tout-puissant service national de renseignement. Il était donc à la tête de la tentative de putsch avorté des 13 et 14 mai 2015 contre Nkurunziza. Un deuxième groupe sur le terrain qui s'est annoncé juste après le Forebou, c'est celui du RED Tabara, c'est la résistance pour un état de droit. Ce groupe est très actif sur le terrain, il est constitué essentiellement de jeunes manifestants qui étaient sur le terrain, qui manifestaient contre le troisième mandat de Nkurunziza et qui assurent aujourd'hui qu'ils ont pris les armes parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix face à la répression qu'ils rencontraient sur le terrain. Qui est leur leader? Eh bien, son nom n'a pas été officiellement proclamé. Le pouvoir burundais l'attribue à Alexis Ndouhidje, c'est le président du parti MSD, ce qu'il a toujours nié, lui, malgré les sanctions des États-Unis à ce titre. Oui. Enfin, il y a les ex-rebelles des FNL, qui sont dirigés par le général Aloïse Nzabamema, mais aussi un autre groupe qui n'est pas très connu, qu'on attribue à l'ancien patron de DFDD, Hussein Radjabou, lui aussi, dément.
D'accord, donc on vous comprend bien, il y a quatre groupes sur le terrain, les Forebou, la RED Tabara, les FNL et donc ce dernier groupe dont on a très très peu d'informations. Sait-on au moins, Ezra Sindikoumana, si ces groupes sont fortement armés, en quelques mots?
D'abord, il faut savoir que ce sont des rébellions naissantes qui sont encore en train de s'organiser, de recruter, bref, qui essaient de s'installer sur le terrain. Et ce n'est pas facile, même si on parle donc de divisions au sein de l'armée et de la police burundaise, le rapport de force est toujours très favorable à ces corps. Certains diront qu'on ne peut même pas comparer à ce stade. Donc ces mouvements rebelles disposeraient d'armes légères, de quelques mortiers 60 notamment, avec lesquels ils ont déjà lancé des obus sur la capitale Bujumbura, beaucoup de grenades. Mais c'est difficile vraiment de le dire avec précision.
Merci beaucoup Ezra d'avoir été avec nous ce matin, Ezra Zikoumana, correspondant des RFI dans la région, et on parlera certainement là aussi demain de la situation au Burundi après la décision des chefs d'État africains de ne pas déployer une force de stabilisation au Burundi comme il était question de le faire le mois dernier. 33 9 693 693 70. Christophe Diremzian du service des sports est à mes côtés. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan.
On va parler football avec Sofiane qui nous appelle du Niger. Bonjour Sofiane.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs.
Bonjour Sofiane. Allez-y.
Donc, ces derniers temps, Juan, on constate un déplacement massif des stars mondiales vers la Chine. Alors, ma première question est, quel est l'intérêt pour ces joueurs de partir en Chine?
Alors c'est vrai, Christophe Diremzian, que les plus gros transferts du marché, du mercato d'hiver européen, ont concerné des joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens, qui ont donc signé avec des clubs chinois. Comment peut-on expliquer cet intérêt soudain pour le championnat chinois?
200 millions d'euros, c'est quand même extraordinaire. Tout simplement l'argent qui coule à flot désormais dans le foot chinois. La principale raison, ce sont les droits télé, le nouveau contrat de droits télé qui a été négocié pour le début de la saison 2016, qui va démarrer au mois de mars en Chine, un contrat qui n'a strictement rien à voir avec le précédent. Songez que le précédent contrat en 2015 permettait aux diffuseurs télé de diffuser les matchs pour 8 millions d'euros par an. À partir de 2016 et pour une période de 5 ans, 183 millions d'euros.
Ah, oui.
On entre carrêtement dans une autre planète. Évidemment, dans
donc
ces conditions...
Le championnat chinois rentre dans la cour des grands, finalement.
Alors oui, mais tout ça a, j'allais dire, une arrière-pensée un petit peu politique. Tout ça, pourquoi? Parce que les clubs qui sont la propriété de grands groupes industriels, des promoteurs immobiliers, je pense notamment au champion titre qui est Guangzhou Evergrande, qui est détenu par un groupe immobilier et le géant du commerce en ligne chinois qui s'appelle Alibaba. D'autres clubs sont également soutenus par des promoteurs immobiliers. Tous ces clubs répondent, j'allais dire, à une demande expresse du gouvernement chinois.
Et même du président
chinois. Du président chinois qui avait déclaré en 2011 qu'il fallait que la Chine se mette un peu au niveau des autres nations, des grandes nations du football. Elles ont compris le message en 2015 parce qu'il y a eu un plan de développement du football chinois qui était décrété au point de vue institutionnel pour les écoles, le développement de centres de formation, mais les entreprises propriétaires de ces clubs ont bien compris qu'il fallait s'attirer les faveurs du pouvoir chinois, et évidemment dans ces conditions, elles ont développé le football avec ce qu'on fait généralement, c'est-à-dire le recrutement des bons joueurs étrangers, pas forcément toujours les meilleurs, mais en tout cas ceux qui sont encore, j'allais dire, dans la force de l'âge et qui n'ont plus forcément beaucoup de temps de jeu dans les clubs européens.
Oui, parce qu'il y a quelques années, c'était surtout les joueurs en fin de carrière qui partaient jouer en Chine.
C'est un peu le Qatar de l'époque.
Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on a des joueurs comme Ramirez qui a quitté Chelsea pour 28 millions d'euros. Ramirez, il a encore une belle carrière devant lui.
Il a encore une belle carrière devant lui. C'est pas d'ailleurs le record de ce marché des transferts, parce qu'au tout dernier moment, on a su que Jackson Martinez de l'Atlético Madrid avait lui signé au Guangzhou Evergrande pour 42 millions d'euros. Autre exemple connu des auditeurs, c'est Gervinho, qui part lui au eBay China Fortune pour 18 millions d'euros, voilà. Et bah tous ces joueurs ont encore largement la possibilité de jouer, il y a pas de souci, mais ils sont attirés par l'argent, mais il faut des noms, des têtes d'affiche pour remplir les stades qui sont pour l'instant assez correctement remplis, mais à l'échelle de la Chine.
Aussi remplis que nos stades en France.
Voilà,
quand
je vous dis que la moyenne c'est 22 000 spectateurs, oui. Ça, à l'échelle du gouvernement chinois, de la Chine, c'est pas grand chose, très honnêtement. Et ils espèrent effectivement, les responsables du foot chinois, que ça aille un tout petit peu plus loin quand même, évidemment. Mais pour ça, il faut des noms européens, des noms ronflants, des noms de joueurs qui ont déjà fait leur preuve dans les championnats européens. Et là, forcément, on apporte les joueurs qui sont les mieux cotés.
Et peut-être qu'un jour, le championnat chinois viendra rivaliser le championnat européen.
C'est toute la volonté du gouvernement chinois, en tout cas pour l'instant. Ça peut peut-être avoir d'ailleurs quelques conséquences sur l'équipe chinoise, parce que forcément, elle va pas se développer avec des joueurs étrangers.
Hein. Ouais, la sélection chinoise. Je sais que Sofiane avait des questions sur cette sélection chinoise. On aura l'occasion, Sofiane, ne vous inquiétez pas de vous rappeler prochainement. On est obligé d'en rendre l'antenne pour le point complet sur l'actualité. Merci à vous, Christophe Zirimzian. Restez avec nous, les informations, et tout de suite après, nous parlerons ensemble de la situation instable dans l'est de la République démocratique du Congo.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.
Priorité santé.